Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Si vous venez de nous rejoindre sur l'antenne de Radion, soyez les bienvenus. Il est 11h passé de quelques minutes et le moment est venu de retrouver votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission qui s'inscrit aujourd'hui dans le cadre du 75e anniversaire de la victoire 1945. Mais l'année 2020 va être une année de riches commémorations autour de la figure militaire et politique de Charles de Gaulle, puisque cette année, il est absolument inévitable. En effet, nous commémorerons le 130e anniversaire de sa naissance, le 50e anniversaire de sa mort et dans un peu plus d'un mois maintenant, nous commémorerons aussi le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Alors, notre wagon livre aujourd'hui revient sur la Seconde Guerre mondiale et sur l'occupation en France. Nous allons vous proposer quelques documents d'archives de nos émissions pour illustrer cette période de notre histoire, période sombre et tragique. Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht pénètre en Pologne. Le 3 septembre, c'est la mobilisation générale en France et en Grande-Bretagne. 5 millions d'hommes sont mobilisés dans notre pays et commence ce que l'on a appelé la drôle de guerre. Le 10 mai 1940, la Wehrmacht pénètre aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Le 14 mai, c'est la percée allemande à travers les Ardennes, les soldats allemands contournant la ligne Maginot et violant la neutralité de la Belgique. Le 15 mai, les Pays-Bas capitulent. Le 17 mai, le président du Conseil, Paul Reynaud, limoge un général français jugé incompétent. C'est le général Gamelin qui est aussitôt remplacé par le général Maxime Weygand. Le 18 mai, âgé de 84 ans, le maréchal Pétain, figure emblématique et prestigieuse alors en France, le maréchal Pétain entre au gouvernement avec rang de ministre d'État et devient vice-président du Conseil. Au mois de juin, le 9 juin, Paul Reynaud quitte Paris, qui est déclarée ville ouverte. Et c'est aussi en France un grand désastre sur les routes, une véritable panique. Il ne faut pas oublier que 1940 est le plus grand désastre militaire français. Voici ce qu'écrit d'ailleurs dans son « Histoire de la France » paru chez Fayard il y a quelques années, Jean-Christian Petit-Fils. Pendant ce temps, par vagues successives, 9 à 10 millions de Françaises et de Belges, en proie à la panique, affolés par les fausses nouvelles, fuyaient leur domicile et se jetaient sur les routes en direction du sud, en voiture, en fourgon, en charrette brimbalante attelée à des chevaux de labour, à bicyclette, avec leurs landaus, leurs valises en carton bouilli, leurs ballots ficelés, leurs chiens, leurs chats et leurs cages à oiseaux. Cette ruée des civils à la dérive, copieusement mitraillée par les Stukas, paralysait les derniers mouvements de troupes. Les images filmées de cet immense et tragique exode, auquel se mêlaient des colonnes de soldats hagards, vareuses déboutonnées, sans casque ni fusil, ayant perdu leurs unités disloquées ou volatilisées, révèlent la détresse de la France profonde, qui n'avait pas connu semblable désastre depuis la défaite de Poitiers de 1356 et le traité de Bretigny de 1360. Une atmosphère de désolation. Devant l'afflux pitoyable de ces nomades affamés et assoiffés à la recherche d'un gîte et d'un peu de nourriture, les maisons se fermaient par crainte des pillages. On logeait les foules dans les écoles, les dispensaires, les mairies, où on les ravitaillait tant bien que mal. Des villes entières s'étaient vidées. Tout se vendait à prix d'or, de l'essence jusqu'au simple verre d'eau. L'armée se disloquait, la nation se liquéfiait. Le 19 mai, Paul Reynaud et plusieurs ministres de son gouvernement se rendent à Notre-Dame pour implorer la Vierge d'épargner la France. Le 26, on promena la châsse de Sainte-Geneviève autour de l'église Saint-Étienne-du-Mont, du jamais vu sous la République laïque. Ça, ce sont des éléments, ce que je viens de vous lire, puisés dans l'histoire de la France de Jean-Christian Petit-Fils. Le 9 juin, Paul Reynaud donc quitte Paris, qui est déclaré ville ouverte. Le 14 juin, les troupes allemandes entrent dans Paris. Le gouvernement, lui, se retire à Bordeaux. Le 18 juin, c'est l'appel de Gaulle sur les ondes de la BBC depuis Londres. Le 22 juin, le général de Gaulle fonde à Londres le comité de la France libre et l'armistice est signé dans la clairière de Retonde, en forêt de Compiègne. La France est coupée en deux et il y a tout de même plus d'un million et demi de prisonniers qui, dans un premier temps, sont retenus otages en Allemagne. Et puis le 10 juillet 1940, les pleins pouvoirs sont votés par l'Assemblée nationale au maréchal Pétain, qui devient ainsi chef de l'État français. Je vous propose, pour ouvrir cette émission, d'entendre François Dorcival évoquer ce qu'est devenu le palais de l'Élysée en 1940, puisque le président Albert Lebrun a quitté le palais de l'Élysée et le palais de l'Élysée était vide et inoccupé et il le sera pendant presque tout le long des années d'occupation. Je vous propose d'entendre François Dorcival nous l'expliquer dans un entretien que j'avais enregistré avec lui à Dijon en mars 2012.
Il va quitter l'Élysée le 10 juin au matin, le 10 juin 1940 au matin, sous la pression de la formidable offensive allemande qui a commencé, comme vous le savez, le 10 mai et donc le 10 juin. Un mois plus tard, Lebrun quitte l'Élysée, laisse l'Élysée derrière lui. Paris est une ville ouverte. Les Allemands arrivent le 14 et Lebrun, pendant ce temps-là, va aller à Bordeaux où il va constituer son dernier gouvernement de la Troisième République, un gouvernement dont le président du Conseil s'appelle le maréchal Pétain et c'est lui qui va aller négocier l'armistice, ce qui est tout de même une chose terrible parce que ça signifie que l'on baisse les armes, que l'on capitule devant l'ennemi, l'armistice avec les Allemands et avec les Italiens d'ailleurs, avant que de se replier à Vichy où l'Assemblée nationale élue en 1936 va lui accorder les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940, à la suite de quoi disparaît la Troisième République.
Alors pourquoi le maréchal Pétain ne s'installe-t-il pas au palais de l'Élysée ?
Eh bien, il en a rêvé. Il en a rêvé et cela ne s'est pas fait. Cela ne s'est pas fait parce que la France était à ce moment-là, après les clauses d'armistice, divisée en deux, la France libre et la France occupée. Cela va durer jusqu'au mois de novembre 1942. Mais à ce moment-là, il y avait donc une France libre, en quelque sorte, dont la capitale politique était Vichy.
La zone nono,
Et puis la zone occupée, dont la capitale restait naturellement Paris. Et Pétain a envisagé de se déplacer, d'aller dans une première étape à Versailles, et puis ensuite de pouvoir venir à Paris où les ministères continuaient à peu près de fonctionner. Et ça ne s'est pas fait. Pourquoi ? Mais parce que les Allemands se disaient « Nous avons entre les mains un gouvernement français, nous l'avons à notre main, nous allons continuer de négocier, nous allons continuer de lui faire croire qu'il peut rentrer à Paris et notamment à l'Élysée, à Matignon et ailleurs, mais pour qu'il puisse s'installer, il faut que la France devienne une alliée réelle de l'Allemagne et de l'Allemagne hitlérienne. Et donc, ils ont en quelque sorte utilisé ce chantage tout le temps, pendant la durée de la guerre.
On apprend qu'en 1940, donc, le mobilier de l'Élysée est donc précieusement, mis à l'arrière, est envoyé à Aubusson, parce qu'on a peur que les Allemands, détruisent l'Élysée, ce qu'ils ne feront pas, d'ailleurs.
Oui, il y a deux craintes. Il y a celle que vous venez de dire, c'est-à-dire le fait que les Allemands s'emparent de telle ou telle œuvre d'art.
Puis il y a les archives,
Il y a des archives, mais il y en a une autre crainte, c'est que Paris soit bombardé, ou que Paris soit l'objet de dégradations très, très, très dommageables. Et dans ce cas, au moins, on sauve le mobilier de l'Élysée.
Alors, il y avait un abri anti-aérien qui n'a servi à rien, que Absolument. Le président Albert Lebrun avait fait construire.
Tout à fait.
Et qui deviendra par la suite, qui sera réaménagé.
Oui.
Je crois qu'à une époque, il a dû abriter des costumes, ou,
oui.
ou c'est ça. Et après,
oui.
il est devenu un PC, un poste de commandement sous
oui.
Giscard, si je
Absolument.
Vous ai bien lu.
Vous avez très bien lu. Et donc, cet abri anti-aérien, c'était un abri anti-bombardement. Parce que le président Lebrun redoutait en effet que Paris ne soit bombardé. Et donc entre 1936 et 1938, a été aménagé un abri sous la cour est de l'Élysée, abri dont le but était de pouvoir accueillir tout de même une centaine de personnes, avec l'aération, avec les salle de travail, d'infirmerie, éventuellement de repos, etc. Et donc c'est un endroit tout à fait important, ça n'est pas un petit cagibi. Et puis Valéry Giscard d'Estaing en 1975, président de la République depuis un an, se fait ouvrir ce souterrain, pose des questions, constate que l'on a entassé là toutes sortes de choses, comme des outils de jardin, des vêtements, des uniformes, etc., en se disant, mais qu'est-ce que c'est que
ce
cette histoire, ce Capharnaüm. Or, à ce moment-là, il y avait depuis le temps du général de Gaulle la force nucléaire et le président de la République et le chef des armées. Et donc celui qui, en dernier recours, peut autoriser ou pas l'emploi de la force nucléaire. Et donc Giscard a décidé de transformer ce souterrain en PC Jupiter, celui où descend tout président de la République depuis 35 ans, pour y recevoir en quelque sorte les informations qui concernent nos armements nucléaires.
Alors, le palais de l'Élysée a été endormi entre 40 et 44. Il prend la poussière ?
Il prend la poussière, vous avez raison, et l'étoile d'araignée. Et pourtant, en 1942, il y a un personnage qui va s'y installer pendant 6 mois, mais qui ne sait pas qu'il s'y installe pour 6 mois. Il pense qu'il va s'y installer, lui, pour une longue durée peut-être. C'est l'amiral Darlan. L'amiral Darlan était ministre du maréchal Pétain dans le dernier gouvernement de cette Troisième République. Il a succédé à Laval comme chef du gouvernement du maréchal Pétain. Et puis, les choses se dégradent, se défont, etc. Des crises interviennent. Et Pétain, finalement, se sépare de Darlan et reprend Laval au mois d'avril 1942.
Un petit peu à la demande des Allemands.
À peine, comme vous dites. Vous avez bien raison. Et le reprenant Laval à la demande des Allemands, Darlan est évidemment très vexé, mais il conserve, nous sommes encore au printemps 1942, donc toute la France n'est pas occupée. Et donc, il conserve le commandement en chef des armées françaises. Et il décide de lui-même, étant le dauphin en titre du maréchal Pétain, titre que n'a pas encore obtenu Laval, dauphin et commandant en chef des armées françaises, il décide de s'installer à l'Élysée, au nez et à la barbe de tout le monde, en disant Laval va à Matignon, eh bien moi je m'installe à l'Élysée. Et c'est à l'Élysée qu'il va recevoir le maréchal von Rundstedt, c'est-à-dire celui qui occupe, qui commande les troupes d'occupation en France. Donc, il va recevoir, en fait, tous les dignitaires allemands, il les reçoit à l'Élysée, ce qui est spectaculaire. Et donc, il a fait remeubler un certain nombre de salons, de pièces, de chambres, etc., pour son secrétariat et ses officiers. Et grâce à cela, eh bien, il va installer, en quelque sorte, une sorte de pouvoir, mais à l'automne 1942, il décide de faire une grande tournée en Afrique du Nord. Son fils est déjà à Alger, son fils malade. Et donc, le 8 novembre 1942, il se trouve à Alger au moment du débarquement des Américains et des Anglais. À la suite de ça, il sera en quelque sorte le représentant du gouvernement français à Alger. Et la bataille qui va se nouer à ce moment-là sur la légitimité, parce que vous avez les Américains et les Anglais qui sont là, mais vous avez aussi les représentants du général de Gaulle qui sont là, les résistants qui sont là. Et c'est ainsi que Darlan va faire les frais de cette bataille et sera assassiné, de sorte que l'Élysée va retomber dans la léthargie qui était la sienne.
À l'instant, c'était François Dorcival, journaliste et historien, enregistré en mars 2012 à Dijon, au moment où celui-ci venait faire la promotion au Club des écrivains de Bourgogne de son dernier ouvrage intitulé « Le nouveau roman de l'Élysée », toujours disponible en librairie aux éditions du Rocher. Merci d'être avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à midi, c'est Wagon Livre spécial Seconde Guerre mondiale et Occupation. On se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Poursuivons notre émission consacrée aujourd'hui à l'occupation et à la Seconde Guerre mondiale avec un extrait d'un entretien enregistré en août 2015 avec Georges Raymond qui, cette année-là, faisait paraître un récit aux éditions de l'Armançon, un ouvrage intitulé « Quand la guerre est un jeu d'enfant ». Georges Raymond, qui réside actuellement à Avallon, est né en Côte d'Or, dans le village de Précy-Soutil. Et il a passé son enfance et sa jeunesse dans ce village de Côte d'Or, dont il a été plus tard le directeur de l'école du village. Et dans ce récit, il raconte l'occupation au cœur d'un petit village de la Bourgogne, c'est-à-dire la guerre vue à travers les yeux d'un enfant. Alors la famille Raymond a failli partir sur les routes de France dans cette pagaille indescriptible de la défaite de 40, mais finalement la famille n'a pas eu à quitter son village. Je vous propose tout de suite d'entendre Georges Raymond. Ce sont des archives Wagon Livre, un entretien préparatoire à une émission qui a été diffusée en septembre 2015. Un entretien préparatoire avec Georges Raymond et enregistré le 3 août 2015 à Avallon.
Vous avez compris qu'on avait regretté de ne pas être parti. Nous, on a, enfant que j'étais, on a regretté que l'exode s'arrête au bout de 2 kilomètres.
Oui.
Ma mère nous avait dit, on va dans le Midi. On a un oncle qui habitait à Tarbes. Et pour nous, on partait en vacances à Tarbes, en voiture, c'était formidable. J'étais jamais sorti de mon village, moi. Donc, si vous voulez le retour...
C'était pitoyable. C'était revenir un peu la queue entre les jambes, quoi. Un peu ça.
Pour les enfants.
Et en oubliant un peu, vous n'avez pas vu tellement cette catastrophe.
Et je voyais pas du tout.
Mais est-ce que vos parents vous disaient que c'était une catastrophe?
Oui, oui. Et mais la catastrophe, c'était... je l'ai vécue, et je le dis à travers ce Belge qui est venu à la maison.
Et le réfugié belge.
Le réfugié belge qui avait perdu sa famille. Pour moi, c'était épouvantable, ça. Et je le vois encore, ce brave homme-là, assis triste sur sa chaise. Je le vois repartir sur le vélo qu'on lui avait donné.
Vous croyez qu'il l'a retrouvé, sa famille?
J'espère pour lui. J'espère.
Vous avez pensé souvent à lui?
Ah oui.
Tout au long de votre vie?
Ça m'arrive de penser en disant qu'est-ce qu'est devenu. De même que je parle aussi des prisonniers français qu'il y avait dans la maison, que l'armée allemande nous imposait de façon bizarre, parce que c'était des soldats français qui étaient prisonniers, mais comme les Allemands ne savaient plus quoi en faire, ils les prêtaient dans les fermes pour aider aux travaux.
La main-d'œuvre, quoi. Oui.
La main-d'œuvre.
Donc évidemment, vous, le petit garçon que vous êtes, ne se rend pas compte de l'humiliation de la défaite. Et quand les Allemands arrivent à Précy, c'est plutôt un événement.
C'est un événement, voilà.
Ah, c'est la fanfare et tout.
Voilà, le défilé, l'arrivée des Allemands, le défilé militaire dans notre rue devant la maison, pour moi c'était un beau défilé, c'est vrai.
Et page 16, alors, c'est le petit narrateur, il dit ça, ça va être une belle guerre.
Oui, peut-être. Oui, oui.
C'est vous qui avez trouvé le titre ou...
Oui, c'est moi.
Voilà.
Non, c'est moi.
Et Gérard Gautier, ça lui a plu.
Oui, mais tout de suite, il a absolument pas.
Parce qu'en fait, c'est quand même Précis, édité édition de l'Armançon, dans le siècle, oui. Est à Précis Soutil, hein, je vois. Alors là, lui n'aime pas la musique allemande, c'était un des premiers résistants en plus.
L'âne, oui. Oui, oui.
Mais c'est exagéré,
Non, non, si vous voulez, je pense que l'âne, effectivement. Vous avez vu dans le texte comment l'âne nous parle par ses oreilles. Hein, comment...
Oui.
Et même, je me rappelle très bien quand les Allemands défilaient, en particulier avec une grosse caisse, les bombes.
C'est lui.
Alors. Oui, c'est lui. Les coups de gong de la fanfare qui défilait faisaient que l'âne mettait ses oreilles en arrière, ça lui faisait mal, je pense, ça lui faisait peut-être mal aux oreilles, mais qu'il n'aimait pas. Donc j'en ai conclu qu'il n'aimait pas les Allemands ni le. Dans la suite aussi le prouve, puisqu'il y a eu les années...
C'est vous, là
Oui, c'est moi.
C'est vous. Et alors, cet âne, il est dans votre cœur aussi.
Oui. Si vous voulez, à l'époque, c'était...
Ça servait à quoi, un âne, à l'époque? À tirer une charrette? C'était surtout... Alors, parce que vous écrivez quand même, notre âne, un vrai bourreau de travail.
Mais tout à fait. Alors, quel était le travail de l'âne? Premièrement, il avait une petite charrette, et tous les lundis matins... Ma mère mettait sur la charrette la lessiveuse, le linge ayant trempé toute la nuit ou la veille, Et il y avait une brave dame qui, avec la hâne et la charrette, allait à la rivière, au bas de Précy-sous-Thil, pour laver le linge. Donc, le travail de l'âne, c'était ça. Deuxième travail, c'était d'aller dans les champs chercher, ou dans les bords des routes, chercher de l'herbe pour les lapins. Troisièmement, l'âne nous emmenait, mes parents avaient un petit verger au pied de la colline, sur la colline, on allait avec l'âne chercher des fruits dans le verger. Oui, c'était la bonne à tout faire de la maison, hein, ça c'est...
Il était aimé.
Et il était aimé, oui, oui. Autant plus, il était bon. Et on jouait avec nous, enfants, c'était notre compagnon de jeu, quoi. On lui sautait sur le dos, on lui passait entre les pattes, on le... Bon, c'était...
Oui, et vous écrivez, hein, notre âne, c'est vraiment quelqu'un. Alors, c'est quoi cette chanson rigolote du petit Parisien, dont il est question page 48 vous, est-ce que vous avez chanté Maréchal Nous Voilà en classe?
Je l'ai entendu chanter, je ne me rappelle pas l'avoir chanté.
Parce qu'il y a des maîtres qui refusaient.
Mmh. Oui, oui, M. Mathieu ne nous l'a jamais fait chanter. Jamais. Par contre, il était chanté, il y avait un... Il s'était formé une école ménagère pour que les jeunes filles apprennent à tricoter, à coudre, etc. Et je me rappelle avoir assisté à la fête de fin d'année où elles avaient chanté « Maréchal, nous voilà ». Mais que dans la foule, il y avait des jeunes en particulier qui avaient pas mal sifflé la chanson. Alors lui, c'était...
Une fleur au chapeau.
Voilà.
Ah oui, vous la chanterez, j'en ai mis. Il faudra la chanter, j'en ai mis.
Au chapeau, à la bouche, une chanson. Un cœur joyeux et sincère. Et c'est tout ce qu'il faut à nous autres bons garçons. Pour casser la gueule à Hitler.
Et il chantait ça dans la cour de récréation.
Alors.
Et vous l'avez appris donc.
On l'a appris, c'est lui qui nous l'a appris. Un jour, ce petit jeune, il était nouveau dans l'école et le maître voulait nous entendre chanter. Donc chacun devait chanter un petit quelque chose. Moi, je me rappelle du tout ce que j'ai chanté. Et lui, il a dit, moi, je vais vous chanter cette chanson-là. Et le maître qui devait connaître la chanson, lui l'a pas laissé finir. Quand il est arrivé pour casser la voix, bon, ça va, tu chantes bien. Quand j'ai commencé d'écrire ce bouquin, j'ai bien vu que je l'embêtais. Parce que quand ma mère était encore de ce monde, je lui ai lu les premières pages. Au bout de 3 pages, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, je veux pas. Je ne veux plus entendre parler de cette époque-là. Je ne veux plus. C'était trop douloureux, trop difficile, trop... Et c'est là que j'ai pris conscience, justement, de la disparité qu'il y avait entre
oui,
moi...
Oui, que c'est un jeu guerre et jeu d'enfant. Voilà. Cette espèce d'oxymore dans le titre.
Et mon frère, lui, a commencé par me dire, ah, tu sais, attention, ne parle pas de ça, ne dis pas ça. Il y a un tel qui a été descendu par les Allemands, un tel qui a été descendu par la Résistance. C'est vrai, il en reste des traces, soyons clairs. Hein. Après, si, je connais au moins 4 personnes qui ont été fusillées par la Résistance, parce qu'ils ont été accusés de trafic avec l'ennemi, dont des voisins, de propres voisins. Et quand on a appris qu'ils avaient été tués par la Résistance, je me rappelle mon père disant, au cours d'un repas, « Ils ont trop parlé ». Vous voyez, ils ont trop parlé, c'était trop bavard, donc ils se sont fait descendre. C'était le leitmotiv, taisez-vous, attention, faut pas.
Et pourtant, il y avait Radio Lavoir.
Et il y avait Radio Lavoir, oui, tout à fait. Pourquoi j'ai écrit ça? Pour 2 raisons. La première, c'est que quand on allait en vacances avec mes enfants, très souvent, ils me disaient, papa, raconte-nous tes histoires de guerre. Hein, tes histoires de guerre. Puis je leur racontais ce que j'ai mis un petit peu là-dedans. Et puis, à la fin, il y en a un qui me dit, tu devrais les écrire. Et puis, d'autre part, ces dernières années, beaucoup de copains qui étaient là-dedans sont partis. Et je me dis, j'en ai plus pour longtemps maintenant.
Ça, le copain Jean-Pierre, il n'est plus là?
Ah, il n'est plus là, non.
Et puis l'élève, alors ce fameux Jean Coco.
Eh bien lui, je crois qu'il est toujours... Ma sœur, qui vit toujours, m'a dit, si, je crois qu'il est toujours là, lui. Mais tiens, celui qui est là sur la photo, ici, ce garçon, fièrement là, avec sa culotte...
qui appuyait à la Jeep.
Voilà, la Jeep. Ben, c'est un garçon qui était avec moi à l'école. Je lui ai téléphoné, il habite Vertroy, il a 86 ans aujourd'hui. Donc, vous voyez, tous les gens qui ont connu ce temps-là, ces histoires-là, disparaissent et plus personne ne se rappellera de ça. Donc, je me suis dit, ça serait pas mal de l'écrire. C'est un témoignage d'une époque.
C'était Georges Raymond, enregistré en août 2015 à Avallon. Georges Raymond qui venait de faire paraître aux éditions de l'Armançon un récit intitulé « Quand la guerre est un jeu d'enfant ». Georges Raymond, né en Côte d'Or, dans le petit village de Précy-Soutil, dont il a été le directeur de l'école de ce petit village de 59 à 67, avant de devenir professeur de collège, puis inspecteur de l'éducation nationale. Et en 1940, Georges Raymond était un garçon de 7 ans. Et c'est donc à travers le regard de cet enfant candide et insouciant qu'il raconte l'occupation et la présence des Allemands dans ce village au cœur de la Bourgogne. Ces wagons-livres aujourd'hui consacrés à l'occupation et à la Seconde Guerre mondiale, on marque une nouvelle pause musicale. Et ensuite, on se retrouve avec le philosophe et germaniste Jean Lacoste pour nous parler du journal de Vézelay, journal de l'écrivain Romain Rolland qui couvre les années 1938-1944. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Place cette fois-ci au journal de Vézelay de Romain Rolland, couvrant les années 1938-1944. 1200 pages parues en novembre 2012 aux éditions Bartilla, dans une édition établie et préfacée par Jean Lacoste. En juin 1938, le prix Nobel de littérature 1915, Romain Rolland et sa femme Marie quittent la Suisse et s'installent en France, dans le département de l'Yonne, à Vézelay, où ils passeront toutes les années d'occupation. Alors, Romain Rolland, C'est le grand pacifiste de 1914, c'est un homme épris de culture et de musique, c'est un immense romancier, rappelons son roman fleuve Jean-Christophe, qui fut un triomphe, mais on peut aussi mentionner Colas Brugnon et L'âme enchantée. Romain Rolland, c'est aussi celui qui a fait découvrir les spiritualités indiennes à l'Occident, et donc en 1938, en acquérant cette maison rue Saint-Étienne à Vézelay, Romain Rolland renoue et retrouve sa région d'origine, puisque Romain Rolland est né à quelques kilomètres de Vézelay, dans la Nièvre, à Clamecy. Alors, Romain Rolland a été un grand germanophile, un compagnon de route du Front populaire, et comme tous ses concitoyens, eh bien, il doit faire face à l'occupation allemande et au régime de Vichy. Alors, il n'en continue pas moins à tenir son journal, et c'est un témoignage exceptionnel d'un écrivain au quotidien dans un village français. Pendant les années sombres et au jour le jour, Romain Rolland note les faits marquants de la guerre et suit la vie à Paris, où il se rendra plusieurs fois. Romain Rolland est mort dans cette maison à Vézelay le 30 décembre 1944. Et pendant ces années, la grande conscience que fut Rolland, lucide jusqu'à la fin, continue à s'interroger. Il nourrit un dialogue avec Paul Claudel, il reçoit Paul Éluard et Le Corbusier, il écrit une somme sur Charles Péguy et renoue avec des amitiés anciennes. Alors ce journal de Vézelay, 1938-1944, de Romain Rolland, plus de 1000 pages tout de même, est disponible aux éditions Bartilla et il est sorti en novembre 2012. Et j'ai eu d'ailleurs le plaisir de pouvoir m'entretenir fin novembre 2012 à la Maison Jules Roy à Vézelay avec Jean Lacoste, qui est philosophe et germaniste et qui a établi cette édition du journal de Vézelay de Romain Rolland, un journal qui a été longtemps sous-scellé, et j'ai demandé d'abord à Jean Lacoste de nous expliquer pour quelles raisons ce journal avait longtemps été mis de côté et n'avait pas pu être publié. Jean Lacoste.
Comme tout écrivain, son journal intime était plus ou moins destiné quand même un jour à être publié, mais par délicatesse et pour que les personnes qu'il pouvait connaître ne soient pas, comment dire, offensées ou leur réputation entachée, il a préféré une certaine durée, et sa veuve et sa sœur ont préféré rétendre cette durée de rétention à la Bibliothèque nationale jusqu'en l'an 2000. C'est seulement dans l'an 2000 que l'ensemble du journal a été décacheté, décellé, et permettant ainsi enfin aux chercheurs d'abord de lire les manuscrits et éventuellement un travail d'édition. Il s'agit, je pense, d'une sorte de respect envers les personnes vivantes qui étaient mentionnées, et puis aussi peut-être un certain embarras vis-à-vis des confidences qui pouvaient se trouver dans ce journal.
Alors dans ce journal, raconte l'installation de Romain Rolland dès 1938 à Vézelay. Alors on rappelle que, si besoin, que Romain Rolland est né en 1866 dans la Nièvre, est né à Clamecy. Mais pour quelle raison Romain Rolland, qui s'était installé en Suisse, pourquoi Romain Rolland décide-t-il de venir vivre à Vézelay?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui ont conjointes. D'abord, la situation politique qui rendait la place de sa femme en Suisse, Marie Kudacheva, qui était d'origine russe et donc entre guillemets bolchevique, cette situation devenait de plus en plus délicate. Des raisons économiques, des raisons politiques, parce que peut-être qu'il voulait se rapprocher de la France, du Front populaire, où il était enfin une figure reconnue, une sorte de réconciliation avec la France. Et puis aussi, peut-être le désir de retrouver la terre de ses parents, de ses ancêtres, la région qu'il avait connue enfant. Mais c'est le hasard qui l'a conduit. Est-ce qu'il y a du hasard dans l'existence? C'est le hasard qui l'a conduit à Vézelay, dans cette maison qui est aujourd'hui le musée Zervos, rue Saint-Étienne. Mais la nouvelle, c'est que Romain Rolland revient finalement avec ce journal qui décrit la vie quotidienne dans cette maison. On retrouve d'ailleurs bien des éléments, la disposition des lieux, etc. Et il décrit dans une sorte de chronique à la fois la vie quotidienne vézélienne, mais aussi les grands événements du monde et les rencontres qu'il fait de personnalités très diverses, puisque ça va de Thorez à la reine Elisabeth de Belgique.
Alors, qui défile aussi à Vézelay pour rencontrer le prix Nobel de littérature?
Beaucoup de monde. Si lui-même sort peu, parce qu'il est âgé et malade, mais très lucide et intellectuellement vraiment admirable. Mais
en fait, il a plus de 70 ans quand
Oui, mais il est malade surtout. Il a toujours été malade de toute façon. Il est toujours d'une santé fragile. Et donc, il ouvre sa porte avec prudence, mais à toutes sortes de gens. C'est très touchant parce que ça va de personnalités de la vie politique, puisqu'il était longtemps compagnon de route du Parti communiste. Au début des ans 38, il reçoit Thorez, Duclos, bon, mais aussi, comme je disais, la reine Elisabeth de Belgique, qui se souvient des propos qu'il avait écrits sur la Belgique en 14-18, bon. Mais aussi des écrivains. Des éditeurs comme Charles Vildrac ou René Arcos, qui sont des amis très proches, et puis aussi, ce qui est assez très touchant, des gens de la région. Il lit, lui, ce grand prix Nobel, cet écrivain ce consacré. On n'imagine pas sa réputation internationale à l'époque. Hein. Il avait été reçu en grande pompe par la Russie de Staline, mais partout il était connu et édité. Eh bien, il a des rapports très chaleureux avec des gens de la région. Par exemple, un certain Marcelot, qui est un pépiniériste de Clamcy, le boulanger Crochet, qui est en bas de Vézelay, et puis de jeunes gens, par exemple, de Migène, qui deviennent un jeune couple de militants. Musicien en l'âme et qui deviennent de véritables amis avec lesquels il a une attitude presque paternelle. Donc ça, c'est très, très touchant, cette porte ouverte malgré cette curiosité des gens qui transcrit les conversations.
Alors vous dites aussi, vous l'avez dit ce soir, la mère de Romain Rolland se prénommait Madeleine. Ce n'est pas en tout cas l'esprit qui a attiré Romain Rolland sur la colline.
C'est compliqué parce que il est par exemple très curieusement indifférent à la basilique dont il parle presque jamais. Mais en même temps, la question religieuse, la question de la foi, la question disons de la spiritualité est au cœur même de ses réflexions dans ce journal. Et je dirais même qu'ils étaient au cœur du ménage Rolland, puisque sa femme Macha, cette princesse russe bolchévique et donc orthodoxe à la fois, se convertit en fin 39, début 40. Elle se convertit, elle rencontre Claudel, elle lit des ouvrages de mystique, et Romain Rolland se trouve dans sa maison même, dans son foyer, affronté à la question de la conversion et de la foi, une question vers laquelle il garde toujours une... Il essaie de rester rationaliste, mais en même temps, il s'intéresse aux questions religieuses.
Vous avez parlé ce soir du curé doyen de la basilique, oui. Le d'Espinay, oui. Qui était un curé plutôt d'extrême droite, puisque, en fait, il tenait en chaire contre la Troisième République. Néanmoins, il y a eu rencontre entre Romain Rolland et ce curé d'extrême droite, ce qui montre l'ouverture, l'attachement humaniste et profondément humain de Rolland avec tout être humain, quel qu'il soit, dans sa diversité.
Absolument, ça c'est une des curiosités, des aspects intéressants et je dirais modernes de ce journal. C'est d'un côté, effectivement, il raconte les prêches tonitruants de d'Espinay contre la Troisième République, les instituteurs laïcs et la disparition de la foi. Et en même temps, lui qui était un adversaire politique, si l'on veut, on sent qu'il discute de théologie, si l'on veut, enfin, ou du moins de questions de la religieuse avec ce d'Espinay, et comme ils parlent avec lui de l'histoire de Vézelay par exemple. Donc on retrouve là cette complexité qui fait sa personnalité quelqu'un de très attachant. D'un côté, cette grande rectitude morale qui lui permet de définir vraiment ce qu'il est, et en même temps l'intérêt pour l'humanité.
À l'instant, c'était Jean Lacoste, philosophe et germaniste, qui a établi l'édition du Journal de Vézelay de Romain Rolland 1938-1944, disponible aux éditions Bartilla. Un entretien enregistré à la Maison Jules Roy à Vézelay le 30 novembre 2012. On marque une nouvelle pause musicale à bord de notre wagon livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Et ensuite, nous reviendrons avec Jean Lacoste sur la défaite, l'occupation, et nous lui demanderons comment le prix Nobel de littérature 1915 a vécu cette immense défaite. Très bonne fin de matinée à toutes et à tous sur Radion, c'est Wagon Livre, et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom.
Sur les images dorées, sur les armes des guerriers,
sur la couronne des rois,
j'écris ton nom.
Sur la jungle et le désert,
sur la nuit, sur le jeunesse,
sur l'éclat de mon enfance,
j'écris ton nom.
Sur les merveilles des nuits,
sur le pain blanc des journées,
sur les saisons fiancées,
sur ton nez chiffon d'azur,
sur le temps soleil moisi,
sur le lac lune vivante,
j'écris ton nom.
Sur les champs, sur l'horizon,
sur les ailes des oiseaux,
et sur le moulin des sombres,
j'écris ton nom.
Sur chaque bouffée d'aurore,
sur la mer, sur les bateaux,
sur la montagne des
sur la mousse des nuages, sur les fleurs de l'orage, sur la pluie épaisse et sable,
j'écris ton nom.
Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint,
sur mes maisons réunies,
j'écris ton nom.
Sur tout toucher un cordier,
sur le front de mes amis,
sur chaque main qui s'étend,
j'écris ton nom.
Sur mes refuges détruits,
sur mes phares écroulés,
sur les murs de mon ennui,
j'écris ton nom.
Sur l'absence sans désir,
sur la solitude nue,
sur les marches de la mort,
j'écris ton nom.
Sur la santé revenue,
sur le risque disparu,
sur l'espoir sans souvenir,
j'écris ton nom.
Et par le pouvoir de mots, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer.
Liberté.
Liberté,
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 liberté.
Wagon Livre. Votre émission littéraire.
Juste avant la pause musicale que nous vous avons proposée, nous vous faisions entendre Jean Lacoste, philosophe et germaniste qui a établi l'édition du journal de Vézelay de Romain Rolland, couvrant les années 1938-1944, un journal de plus de 1000 pages disponible aux éditions Bartilla. Et j'ai demandé à Jean Lacoste, que j'avais interviewé le 30 novembre 2012 à la Maison Jules Roy à Vézelay, je lui ai demandé de quelle manière Romain Rolland avait vécu ces années sombres et dans un premier temps, qu'est-ce que Romain Rolland avait éprouvé lorsqu'il a appris la défaite de l'armée française et la victoire et l'entrée des Allemands à Paris. Jean Lacoste.
Une grande tristesse d'abord.
Le pacifiste qu'il est, forcément, a vu échouer...
Le pacifiste qu'il est, qu'il a été, s'est rendu à l'évidence et était beaucoup plus anti-municois, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'il avait renoncé en partie à cette espèce d'illusion de... pacifiste, sans oser aller jusqu'à prôner la guerre, parce qu'il n'était pas, c'est pas son âge et sa condition qui lui permettait honnêtement d'aller prôner comme ça la fleur au fusil et, comme disait Simone Veil, de graisser les godillots. Mais face à l'occupation allemande, il a des sentiments, comme vous dites, je dirais pas compliqué, mais d'un côté, il reste attaché à cette vieille Allemagne des musiciens, des poètes, qui vraiment constitue une dimension importante de sa culture. Mais en même temps, d'un autre côté, il se fait le chroniqueur de toutes les exactions du régime.
Mais est-il patriote ? A-t-il un sentiment français très prononcé ?
Il le dit un jour quand il passe devant le Sénat, où il y a une immense croix gammée, et il dit « je ne suis pas très patriote » au sens où on l'entend, mais ça me fait mal de voir cela. Il est attaché à la Troisième République. Il écrit à Daladier un mot en disant, à la déclaration de guerre, en 1939, il envoie un message à Daladier avec d'autres qui invoquent la patrie en danger, Valmy, la Révolution française. Donc il ne se veut pas patriote au sens où on peut l'entendre, mais attaché à son pays aussi, ça c'est évident. Mais encore une fois, il y a toujours chez lui peut-être la nostalgie, peut-être un peu naïve vu les circonstances, mais peut-être aussi un peu prophétique vu l'avenir, que derrière le régime nazi qui est voué à la guerre, peut-être qu'un jour on retrouvera ce qu'il appelle la vieille Allemagne. Et quand il reçoit, parce qu'il reçoit aussi des officiers allemands qui demandent à le voir, c'est pas lui qui fait la démarche naturellement, il espère toujours deviner en eux un peu une raison d'espérer. Pas toujours fondée, mais ça fait partie de cette ouverture qu'il essaie de pratiquer. Mais enfin, il faut dire qu'il n'a jamais, par ni aucun écrit, ni par aucun acte, ni par aucune déclaration publique, été compromis dans ce qu'on appelle la collaboration au sens strict. Même si il a rêvé un moment, quand la France s'est effondrée en juin 40, il a manifestement rêvé de quelque chose qui serait enfin, par-delà les armes, par-delà la guerre, une réconciliation franco-allemande. Mais ça ne dure que quelques semaines, en fait, les dures réalités de l'occupation brutale.
Dans son journal, Romain Rolland parle de camps de concentration.
Oui, à la fin, oui. D'ailleurs, dans son journal est scandé. Enfin, c'est un ouvrage assez considérable, plus de 1000 pages. Mais je veux dire, l'ouvrage est scandé par des notations sur la persécution des Juifs en France. D'abord, le statut des Juifs, le premier statut, le second statut, les persécutions. Et à la fin, il mentionne effectivement cette persécution des Juifs et cette annihilation qui était connu, en fait, qui était connu. Donc, peut-être pas dans son ampleur monstrueuse, mais qui était connu. Et donc, c'est un des éléments du drame que ce journal finalement illustre, c'est que d'un côté, encore une fois, la vieille Allemagne à laquelle il est attaché par tant de fibres, et il est obligé de renoncer un peu à cela devant l'horreur qu'il pressent, qu'il décrit par moments.
À Vézelay, Romain Rolland se sent persécuté par Flandin. Vous pouvez expliquer qui
oui.
est ce Flandin ?
Ce Flandin avait été le chef de la droite parlementaire contre le Front Populaire. C'était un homme qui avait une très belle carrière ministérielle, qui sera aussi sous Pétain un bref moment, je crois, président du Conseil, du moins. Donc c'est un représentant, disons, de la droite, qui n'était pas l'extrême droite. Mais c'est assez amusant, là, on entre dans le domaine de l'anecdote. C'est vraiment, il a l'impression que celui-ci le persécute, fait ouvrir son courrier. Et je pense que là, c'est du domaine du fantasme. D'un homme qui, alors ça c'est une réalité, qui n'a pas été accueilli à Vézelay avec un enfin, qui a été accueilli, disons, avec certains soupçons, puisque quand il arrive, il est encore une fois avec la réputation d'être un compagnon de route du Parti communiste, alors que très rapidement, déjà en 1938, bon, il se détache un peu, mais il a toujours le sentiment que le parti est un rempart contre le communisme. Et lors des 39, évidemment, c'est une rupture profonde. C'est d'ailleurs pour ça aussi que son journal n'a peut-être pas été publié si rapidement, parce qu'il y a des pages très sévères sur le parti communiste, oui, et sur la politique stalinienne du pacte germano-soviétique.
On se rappellera cette photo où l'on voit Romain Rolland aux côtés de Staline, par exemple, en 1935.
Oui, voilà, c'est ça. Ça c'est, alors, à l'époque du journal, ça c'est fini, c'est totalement fini. Détaché de la politique, ça c'est certain.
Alors on ne peut pas dire que Romain Rolland prenne vraiment position pour ou contre un camp quel qu'il soit sous l'occupation. En revanche, il est un peu effrayé par l'audace de sa bonne Odette qui essaie de faire des petits actes de résistance.
Oui, lui-même n'est pas résistant, que je veux dire, le sens, c'était l'affaire des jeunes gens. Mais manifestement, il a des contacts avec les FFI et toute la résistance de la région. Et même sa bonne s'engage dans des aventures très, très courageuses. Lui-même est un peu à distance. Il faut bien reconnaître, il faut être... Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a malgré tout assisté à la fois au combat de l'arrivée des Allemands dans Vézelay.
C'est août 44.
Oui, des pages très, 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 très impressionnantes, grandioses sur les prisonniers français, sur le silence qui pèse, sur la foule des prisonniers, puis l'arrivée des Allemands, etc. C'est le sentiment d'étonnement de voir ces deux, trois motocyclistes allemands arriver en avant-garde. Et puis alors, à la fin, effectivement, quand les Allemands repartent, là, il y a des combats avec le maquis, dont il est un témoin en première loge, puisque ces combats ont eu lieu au bas de Vézelay, là, et lui est véritablement aux premières loges.
Jean Lacoste, un mot rapide avant de nous séparer. À la mort de Romain Rolland, le 30 décembre 1944, Romain Rolland meurt à Vézelay, dans cette maison qui, vous l'avez répété tout à l'heure, abrite actuellement le musée Zervos. Un certain nombre d'intellectuels, et notamment Louis Aragon, estiment que Romain Rolland aurait toute sa place au Panthéon.
Oui, il aurait eu sa place très légitimement, d'abord parce que c'est un écrivain important. À l'époque, il était tout à fait reconnu au plan international, et surtout, il était un peu le symbole de la France réconciliée dans la résistance, c'est-à-dire ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Malheureusement ou heureusement, à ce moment-là, la droite a dit très bien, Romain Rolland au Panthéon, c'est une belle figure, mais on pourrait y mettre Peggy, ce qui était légitime aussi, plus patriote, si l'on veut, au sens étroit du terme, mourir pour la patrie. Et puis, de certains mouvements proches du MRP, on dit il y a Bergson aussi, c'est très légitime aussi, ce qui fait que devant l'affluence des demandes, le projet est tombé à l'eau, ce qui fait que maintenant il repose, comme il le souhaitait d'ailleurs, dans le village de Brest, près de sa famille, et c'est très bien comme cela.
À l'instant, c'était Jean Lacoste, philosophe et germaniste, enregistré fin novembre 2012 à la Maison Jules Roy à Vézelay. C'est lui qui a assuré l'édition et la publication du journal de Vézelay 1938-1944 de Romain Rolland, un journal toujours disponible aux éditions Bartilla. Et puis avant de nous séparer, je voudrais mettre un petit coup de projecteur sur deux publications de qualité. Tout d'abord, le dernier numéro de Pays de Bourgogne, c'est le numéro 259, daté de mars 2020, avec un remarquable dossier sur les scientifiques de Bourgogne-Franche-Comté qui ont leur nom sur la Lune. Effectivement, il y a des scientifiques franc-comtois ou bourguignons qui ont donné leur nom à des cratères sur les faces visibles ou faces cachées de la Lune. C'est un dossier remarquable qui mérite vraiment d'être plus que feuilleté. Superbe. Dernier numéro donc de Pays de Bourgogne, au clair de la Lune. Et puis, pour celles et ceux qui veulent défendre la liberté d'information, la liberté de diffusion, défendre la liberté de la presse dans le monde, sachez que le dernier album de Reporters sans frontières est disponible dans toutes les maisons de la presse avec de superbes photographies de Philippe Halsmann. Philippe Halsmann, c'est ce légendaire photographe qui faisait, vous savez, sauter en l'air les plus grandes stars d'Hollywood et les plus grandes figures de la planète et qui les prenait en photo finalement dans une forme d'apesanteur, et ça donne des clichés absolument superbes. Alors il y a des hommes politiques, il y a des artistes, il y a Cocteau, et une des photos qui m'a le plus séduit, c'est la photo de François Mauriac, notre prix Nobel 1952, qui effectivement est pris en photo en lévitation par Philippe Halsman, photo à retrouver donc dans le dernier album de Reporters sans frontières. Il ne me reste plus effectivement qu'à vous remercier d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congé de fin de semaine. Vous nous retrouvez bien sûr sur le site d'archives de Wagon Livre via internet sur le www.yannickpetit.fr. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain.